Mais quel défi aussi! Je me souviens, moi, d'une conversation marquante que j'ai eue il y a bien longtemps avec une amie qui s'appelle Elisabeth. Et cette amie venait de placer sa foi en Jésus-Christ. Et elle avait commencé à visiter avec moi l'église dont j'étais membre à l'époque. C'était pas ici, c'était une autre église. Et à la fin d'une célébration où elle était venue avec moi et d'autres amis, elle s'est tournée vers moi et elle me dit, « Écoute, Marc, tu sais que moi, je suis une personne juive. Et il n'y a personne dans ma famille ou parmi mes proches qui sont chrétiens. Moi, je le sais que quand ils vont apprendre que je crois en Jésus, ma famille va me rejeter. Mes amis vont me renier. Est-ce que tu crois vraiment que cette église va s'occuper de moi quand je vais être abandonné? Est-ce que tu crois que vraiment que cette communauté-ci va devenir ma famille quand j'aurai plus de famille? Alors, au bout du compte, Dieu a aidé Elisabeth à trouver une église où elle s'est sentie accueillie et en famille. Et alors, il se trouve que ce n'était pas la mienne. Bien qu'on a fait notre possible pour l'accueillir, lui ouvrir la porte, et elle a trouvé, Dieu l'a guidée. Il se trouvait que c'était une église où il y avait beaucoup d'autres juifs qui étaient devenus des croyants en Jésus-Christ, et je pense que ça a joué dans la balance. Mais peu importe, sa question est restée dans ma tête, et j'aimerais ça qu'elle reste un peu dans notre tête en nous posant notre question de ce matin. Ça ressemble à quoi une église locale qui est à l'écoute du Saint-Esprit? Ou une église qui est dynamisée, pour utiliser notre verbe de tantôt, une église qui est dynamisée par le Saint-Esprit? Dans le livre des Actes, en fait, on trouve plusieurs descriptions de communautés locales qui vivent la plénitude du Saint-Esprit. Particulièrement la première église qui est dans quelle ville? Non, ça c'est la deuxième ou troisième ville. Il y a une ville avant ça même, pas Antioche, mais Jérusalem. Oui, Jérusalem, c'est ça. Et justement, le texte de ce matin, qui n'est pas au tableau, mais ce n'est pas grave. C'est Acte 4, 32 à 35, nous donne une de ces descriptions, un de ces tableaux, et qui va nous aider à essayer de répondre à la question. Donc, on va le lire ensemble. Et moi, je vais le lire dans la version second 21. Et écoutez bien, parce que je vais vous poser une question qui est celle-ci. Est-ce qu'il y a un détail dans le texte qui vous frappe? Y a-t-il quelque chose dans le texte qui vous frappe? Et la parole va être à vous pendant une couple de minutes après qu'on fait la lecture. Ça va? Et il ne faut pas se gêner. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et on va lire. Écoutez bien, puis là, quand je vous dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Vous avez droit de parole, et juste de ne pas parler trop longtemps, parce que c'est moi quand même le prédicateur officiel. Hein?
Et c'est ma fête.
Ah, c'est ma fête, c'est ça. Ben, en fait, c'est demain. Alors, Seigneur, ouvre nos oreilles maintenant qu'on écoute ta parole. Sois avec nous au nom de Christ. Amen. Alors, je lis Actes chapitre 4, les versets 32 à 35. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que, voilà, il est à l'écran. Alors, ben en fait, non, je vais demander à quelqu'un de m'aider, parce que c'est ma fête. Y a-t-il quelqu'un qui aurait le goût, qui voit bien? qui a une bonne voix et qui aimerait lire à voix haute le texte?
Veux-tu faire un cadeau de fête?
Oui, avec grand plaisir, mon frère.
La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins.
Amen. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait, ou plusieurs personnes, y a-t-il un détail qui vous frappe? Oui.
Ils vendaient leurs champs et leurs maisons.
Ils vendaient leurs champs et leurs maisons. C'est quand même pas rien, là. C'est quand même quelque chose de fort inhabituel. Merci beaucoup pour ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres observations? La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est fort frappant, ça. Merci pour ça. Oui, Francine.
Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux.
Ouf, aucun nécessiteux. Donc, aucun pauvre dont les besoins n'étaient pas comblés. Ha! Autre chose? Oui, Chantal.
Alors, le dernier verset. On faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins.
Oui. Alors, merci, oui. Ça, c'était comme un système ou une organisation pour vraiment faire ce qu'ils sont en train de dire, là, que les besoins sont en train d'être comblés. Wow! Oui! Quelqu'un d'autre? Oui, Régina. Wow! Oui! Alors, c'est comme un verset au milieu qu'on... ça serait une erreur de le négliger. Il y a une puissance dans ce que les leaders, les apôtres, enseignaient ou disaient aux foules. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Comment tu dirais ça, Régina, en tes propres mots, cette même phrase? Est-ce qu'il y a une autre manière de le dire? Je ne sais pas si tu veux te risquer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une grande grâce reposait sur eux tous.
Ça veut dire que chacun d'eux était béni.
Oui.
Oui, parce qu'ils rendaient témoignage de Jésus-Christ et ensemble.
Wow! Alors, dans le groupe tout entier, il y a quelque chose qu'ils entendaient, qu'est-ce que les apôtres disaient, et une bénédiction, un bon feeling d'être... C'est un peu difficile à expliquer, mais un feeling positif et motivant était sur chacun des gens qui étaient là. Une grâce de Dieu, comme si Dieu les touchait directement de sa bénédiction. Alors, merci pour tous ces commentaires. Et on pourrait aller plus loin... vous pourriez aller plus loin, mais je vais quand même prendre la parole. Je voudrais, moi, vous parler un petit peu des choses que j'ai découvertes cette semaine dans ce passage qui correspondent à ce que vous venez de dire, en fait. Et je vais donner quelques pistes pour des applications que je vais vous proposer dans l'Église Oasis. Parce que ça, c'est ce qui s'est passé dans la première communauté chrétienne, puis nous, on est une autre communauté chrétienne, mais on est dans la même, dans la même lancée, et on va s'inspirer d'eux autres. Bien, dans notre contexte à nous, avec nos moyens à nous. Je vous rappelle aussi notre vision d'Église que nous partageons, que nous, ici à l'Oasis, on prie Dieu pour qu'on puisse devenir, être et devenir une maison de prière pour toutes les nations. Une communauté qui reflète la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ici à Pierrefonds et au-delà, par l'amour qu'on a les uns pour les autres et où chacun peut trouver sa place. Puis on veut devenir une preuve que Jésus-Christ est une alternative à la vie sans Dieu de notre époque. Puis on veut inviter tous ceux qui nous entourent à faire partie de cela, à faire partie de nous. Amen. Alors, comment est-ce que le tableau qu'on vient de voir va nous aider? Eh bien, moi, j'ai résumé ça en 4 qualités qui sont dites ici de la première église à Jérusalem. Il y en a d'autres, mais dans ce passage-ci, j'en vois 4 importantes et on va les regarder une à la fois maintenant. Alors, première des choses, c'est que... Oh, j'ai le même problème, mais en tout cas... La première, c'est que c'est une Église qui est unie. Hein? Le texte commence avec, comme quelqu'un a mentionné, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Une vraie unité. C'est extraordinaire comme affirmation. Puis, c'est vrai que quand même, dans une foule, quand il y a un mouvement de masse, un effet de masse, et que tout le monde ressent la même joie au même moment, par exemple dans un match de soccer ou un concert de musique, tout le monde a la même joie ou la même conviction ou le même désir. C'est vrai que c'est un sentiment très exaltant et on peut le vivre aujourd'hui dans toutes sortes de situations. Mais ici, c'est plus que cela. Par l'action du Saint-Esprit, c'est chaque individu qui est poussé en dedans de lui-même pour décider pour lui-même comment il va s'unir au groupe. Alors, ce n'est pas juste un mouvement de masse, mais c'est quelque chose qui se passe dans l'individu, peut-être premièrement ou peut-être en priorité. C'est donc collectif et individuel, au point où les gens retournent chez eux, réfléchissent, prient et prennent des décisions sacrificielles, puis ensuite l'expriment dans le groupe, soit pour faire un don, soit aussi pour simplement se dire, mais voici comment moi je vais m'impliquer, voici comment moi je vais participer à l'unité du groupe. Alors, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui travaille dans chaque individu. Et ça crée une unité encore plus grande et encore plus long terme qu'un mouvement de masse qui est juste momentané. Alors, c'est vrai que le Saint-Esprit, quand tu deviens chrétien puis tu te joins à la communauté chrétienne, c'est vrai que le Saint-Esprit va te conduire à prendre des décisions pour le groupe. Mais c'est jamais par obligation et c'est jamais supposé être par légalisme. C'est un mot qu'on dit des fois, puis peut-être c'est nouveau ce mot-là. Légalisme, ça veut dire que ma religion, elle est basée sur des lois. Il faut faire ci, il faut faire ci, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et quand c'est le légalisme, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bien, souvent, ça vire mal, parce que là, c'est comme on devient un groupe où tout le monde se compare les uns aux autres, puis tout le monde se juge les uns les autres, puis ça crée une ambiance qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. une ambiance yark. C'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça. C'est pas par légalisme, c'est pas par obligation. Ici, on voit une communauté où chacun est libre de donner généreusement, même pour aller jusqu'au sacrifice, dans certains cas, mais c'est selon le désir du cœur et c'est pas par la contrainte du groupe. OK? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? C'est bon? Oui? On voit dans notre groupe ici, dans Acte 4, il y a comme un genre de cercle de puissance. Et là, je n'ai pas eu le temps de faire le graphique, ça m'aurait pris comme 4 heures avec mes capacités, mais avec PowerPoint et autres. Mais le cercle, il est comme ceci, parce qu'avant qu'il y ait la description, en fait, ce qui se passe, c'est que Pierre et Jean sont mis en prison par les responsables de Jérusalem parce qu'ils sont en train de prêcher Christ, puis les pouvoirs politiques et religieux n'aiment pas ça. Alors, ils sont mis en prison. La communauté se rassemble pour prier et Dieu délivre Pierre et Jean de leur prison. Et ensuite, ils retournent dans la communauté. Tout le monde est content. Ils prient encore une fois que Dieu les aide à prêcher encore plus fort et qu'il y ait des miracles même pour appuyer la prêche. Et là, il y en a d'autres qui se convertissent. Il y en a d'autres qui c'est-à-dire, veulent se joindre au groupe. Ce serait une meilleure manière de le dire. Et après ça, la foi du groupe est fortifiée encore plus. Et là, ils se remettent à prier. Et le cercle recommence. Les apôtres prêchent encore plus puissamment et ainsi de suite. Voyez-vous, le cercle de puissance, je ne sais pas si je devrais le faire comme ceci ou comme cela, mais ce n'est pas grave. C'est comme une dynamique de turbine qu'on voit dans l'Église du Livre des Actes et qu'on peut vivre, nous autres aussi, là où nous, on est. J'aimerais aussi dire que l'unité, donc, n'est pas superficielle, elle est profonde. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, je l'ai dit déjà. Mais ça veut dire que dans certaines situations, il faut soulever des problèmes. On en parlait au petit déjeuner aujourd'hui, chez nous, chez les Debanis. Des fois, il faut soulever des points faibles dans la communauté. Un peu plus tard, dans cette belle église de Jérusalem, où on partage tout, bien, il y a un problème ethnique et racial, imaginez-vous, c'est que les veuves, donc les femmes qui ont perdu leur mari et donc leur source de revenus à l'époque, puis il n'y avait pas de bien-être social ou de régime des rentes. Et alors, c'était l'Église qui, avec ce qui était mis en commun, s'occupait d'elles, mais les femmes grecques recevaient moins d'aide que les femmes palestiniennes ou hébreues. Et je crois que la communauté ne faisait pas exprès, mais c'était la réalité. Il y avait une injustice dans les allocations aux unes et aux autres. Mais quelqu'un a eu les guts de le dire aux apôtres. Hey, là, il commence à y avoir du malheur, de la bisbée, de la tristesse dans la communauté parce que les femmes grecques, la communauté grecque sent que vous êtes injuste. Et le Saint-Esprit a guidé la communauté à régler le problème. Puis ils l'ont réglé par une solution, on va dire, administrative. Et c'est vraiment beau. Mais ça, on n'est pas rendu là encore. Mais c'est pour dire qu'il faut s'exprimer et il faut s'impliquer. Il ne faut pas juste critiquer pour critiquer, il faut s'impliquer. Donc, je vous laisse avec cette question sur mon premier point. Oh, je pense qu'il faut que je fasse ça souvent pour ne pas perdre le contrôle. Alors, voilà. Et ma sœur, mon frère de l'Oasis, est-ce que tu cultives cette attitude? Dans ton propre cœur, de t'impliquer, peut-être de te joindre à un ministère ou un groupe d'études bibliques, une cellule, et est-ce que tu t'exprimes? Demande à Dieu avant de te montrer comment t'exprimer, mais c'est important pour que l'unité soit bâtie et que Dieu fasse avancer les choses. Amen?
Amen. Okay.
Deuxième point, concernant cette belle communauté à Jérusalem, c'est une communauté qui exprime la générosité de Dieu. Et on a vu dans deux versets de notre passage qu'il y a un partage assez frappant des ressources, au point où les gens vendent des propriétés qui valent beaucoup pour les mettre au service des autres. Moi, ça, en lisant ça, ça m'a fait penser à mon amie Elisabeth. Elle a dit, si je me joins à vous autres, et est-ce que vous allez comme vous occuper de moi? Et je me suis dit, bien, peut-être à Jérusalem aussi, les nouveaux qui se joignaient à ceux qui croyaient en Jésus à l'époque, ils devenaient persécutés et peut-être perdaient des connexions de famille qui, où ils pouvaient survivre. Alors, l'Église comprenait ça et gérait ça avec, invitait les gens carrément à participer. Peu importe la situation sociale de telle ou telle église, moi, je trouve que le partage des ressources matérielles, c'est tellement beau. Et lorsque moi, je vois et j'en vois régulièrement parmi nous à l'Oasis, un frère, une sœur qui fait un geste de générosité envers un autre frère, une autre sœur, ou carrément envers la communauté au complet, eh bien, moi, ça, c'est pas compliqué, ça fait grandir ma foi. Je me dis, waouh, Dieu existe vraiment. As-tu vu? Je me parle à moi-même. As-tu vu ce que cette personne vient de faire pour aider sa sœur, pour aider l'Église? Et non seulement ça aide ma foi, mais ça aide ma propre générosité à déployer ses ailes encore trop petites. Je ne dis pas que je ne suis pas généreux, je dis que j'ai du chemin à faire. Et donc, j'envoie, moi, de la générosité parmi nous. On a tous du chemin à faire quand même. Et il y a différentes formes que la générosité peut prendre. Ici, à Jérusalem, ce qui a frappé l'auteur, c'était que le monde vendait leur maison. Et peut-être que ça voulait dire leur champ. Peut-être un champ supplémentaire. J'en ai deux, j'en vends un. J'ai deux maisons, j'en vends une. Peut-être que c'est carrément j'en ai une puis je la vends. Ce n'est pas précisé. Mais dans notre situation à nous, c'est intéressant que notre frère Martin, qui était ici il y a deux semaines, nous a parlé de la question de l'hospitalité. Et on l'avait vu que c'était une autre église à Philippe où... Lydie a été baptisée dans l'esprit, puis baptisée dans l'hospitalité. Elle a tout de suite invité Paul et son équipe à venir dormir chez elle. Il y a différentes manières que je peux montrer à mon frère mon intérêt pour lui, ma sensibilité à ses besoins. Et l'hospitalité, ça en est une. Et l'hospitalité, ça peut être... J'aimerais t'inviter à un repas chez nous. Mais ça peut être aussi, j'aimerais ça venir te voir dans ta maison. C'est une forme d'hospitalité, ça aussi, de dire, j'aimerais ça venir. Ça dépend comment tu sens la situation. L'hospitalité, ça peut être aussi, est-ce qu'on pourrait se rencontrer et puis peut-être faire un projet ensemble? Ou tout simplement... Est-ce qu'on pourrait peut-être se rencontrer pour prendre un café et parler? Il y a toutes sortes de manières de montrer à l'autre que toi, tu fais partie de moi parce que tu es ma sœur, mon frère. Et l'hospitalité est certainement quelque chose que le Seigneur, il veut qu'on développe de plus en plus à l'Oasis. Mais j'aimerais revenir à cette question des maisons puis des champs qui ont été vendus. En fait, quand on lit la suite de l'histoire, je pense que Luc, qui est un auteur très doué, il parle de cet aspect-là, qu'il y en a que carrément ils vendaient leur champ. Et c'est aussi parce qu'il veut parler, il veut donner deux exemples. Un très bon exemple, un gars qui s'appelle Barnabas. Si vous lisez la suite, vous voyez que Barnabas, il vend un champ, puis il donne l'argent aux apôtres, puis les apôtres, ils font le dispatching selon les besoins. Puis là, il y a un couple qui est montré en très mauvais exemple. Ananias et Saphira, je pense que plusieurs connaissent l'histoire, d'autres non, mais c'est une triste histoire qui finit mal, mais vous la lirez, mais eux, ils voient Barnabas, ils voient que ce que Barnabas vient de faire, et ça le fait monter en prestige dans l'Église. Sûrement que Barnabas, ce n'était pas du tout son but, mais eux, ils pensent, ben nous, on aimerait ça, la même gloire que Barnabas. Alors, eux, ils vendent un champ, mais ils mentent à propos de la valeur. Ils en donnent une fraction aux apôtres, et puis ils font semblant qu'ils donnent tout comme Barnabas. Et c'est comme si, au lieu de consulter l'Esprit-Saint, comme je suis en train d'expliquer, de dire, « Oh, Dieu, qu'est-ce que moi je peux faire, puis que ça vienne du cœur pour aider l'Église? » C'est plutôt, « Hey, chérie, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être haut dans le standing comme Barnabas? » Et finalement, ils sont présentés en très mauvais exemple. Un petit peu, c'est un peu comme par obligation ou comme, est-ce que c'est du légalisme, est-ce que c'est... Mais en tout cas, ça ne doit jamais être par pression de groupe, par vanité, par légalisme qu'on doit faire ces choses. Peut-être que Dieu va me dire, Marc, je donne un exemple comme ça que j'invente. Marc, prends ta paye et puis, tu vois ton frère qui est dans le besoin, donne-lui l'argent pour qu'il puisse s'acheter un matelas, un bon matelas, pour qu'il puisse dormir. Mais vous savez, peut-être que le Saint-Esprit va te dire, garde, prends ta paye, Marc, et puis achète pour toi, pour ta propre maison, un bon sofa-lit bien confortable, puis mets-le dans ton salon, puis peut-être, puis là, t'inviteras ton frère de temps en temps à venir dormir chez toi. Comprenez-vous? Il y a toutes sortes de manières que le Saint-Esprit peut te dire, « Hey, mets les besoins de la communauté en priorité, Marc, et sois créatif et sacrificiel avec les ressources que je te donne pour montrer à l'Église que tu l'aimes. » Amen? Bon, troisième point, c'est une Église ouverte à tous. Et on voit au verset 33 que les besoins de chaque personne sont pris en compte. Chaque personne, même les nécessiteux. On pourrait faire le faux raisonnement, bien, n'invitons pas les gens qui ont des gros besoins à faire partie de nous, parce qu'après ça, s'ils se joignent, il va falloir qu'on s'en occupe. C'est pas du tout comme ça que Jérusalem travaille. Vous êtes d'accord avec moi? Il présente la bonne nouvelle de Jésus à tout le monde. Et ceux qui croient que Dieu touche, bien là, l'Église les accueille et s'en occupe. Et des fois, on ne sait pas comment, mais le Seigneur va nous aider. Il y a toujours une solution quand on demande au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on grandit. Vous savez, en politique, et je vois ça... nous voyons ça un peu dans les débats présidentiels aux États-Unis, pour ceux qui suivent ça. Pour ceux qui ne suivent pas, peut-être que vous êtes sages de ne pas suivre, parce que c'est vraiment, ça frappe fort. Mais c'est comme si, on dirait, les humains, on a tendance, soit on va vers la droite en politique extrême qui disent « Donnez le pouvoir aux riches, et puis les pauvres, tant pis pour eux qui se débrouillent. » Hein? Puis, à l'autre extrême, la gauche qui dit « pouvoir aux pauvres, les riches à mort ». J'exagère, mais presque pas. Puis, au fond, l'Église de Jérusalem, c'est quoi? C'est les pauvres puis les riches, Dieu les appelle à venir ensemble. Puis c'est comme, il y a comme un genre d'équilibre qui se crée là-dedans, puis les besoins de chacun sont mis ensemble, puis on se complète les uns les autres. C'est la logique de Dieu qui est folie pour les humains. L'Église est ouverte à tous. Et nous aussi, on doit être ouverts à tous. Et le Seigneur va nous faire apprendre à ouvrir nos esprits les uns par les autres. Et puis, ma dernière observation, et quelqu'un a mentionné, je crois que c'était Régina, fidèle au témoignage des apôtres, qui fait qu'une grande grâce repose. Alors, je reviens à mon cercle de puissance. C'est que un des aspects, on a dit la prière, oui, il faut se réunir pour prier. Et ça, il faut Oasis qu'on travaille là-dessus. Et on le fait déjà, mais il faut le faire plus. Par la prière, Dieu va nous amener la puissance. Mais c'est après la prière, il prie pour quoi? Il prie pour que les apôtres puissent prêcher leur témoignage avec fidélité et puissance. Et le cercle continue. Et c'est comme ça que la grâce descend sur nous tous. Et donc, les enseignants de l'Oasis, et il y a plusieurs parmi nous qui, à différents niveaux, enseignent. Et finalement, tout le monde à l'Oasis va avoir son occasion d'enseigner. Et je vais... Caroline, je ne veux pas la mettre mal à l'aise, mais ma femme est rentrée de la réunion et elle dit « il faudrait qu'elle vienne en avant le dimanche ». C'est tellement puissant comment qu'elle a parlé fidèlement de, non seulement de la parole de Dieu, mais de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et je dis, chacun de nous, on doit prendre au sérieux quand Dieu nous demande de parler de lui, parler en son nom en avant. Mais j'ajouterais, il faut être là quand on enseigne. Donc, déjà le dimanche matin, soyons fidèles. Soyons fidèles quand quelqu'un se prépare pour enseigner en étant fidèle. De la même manière que les apôtres étaient fidèles à ce qu'ils ont vu, les enseignants doivent être fidèles à ce que les apôtres ont écrit. Amen, la Bible. Et de la même manière, ceux qui n'enseignent pas doivent venir pour écouter et écouter pour mettre en pratique. Hein? Soyons présents. OK, alors, je vais conclure maintenant. On a vu que, pour répondre à la question, ça ressemble à quoi une Église qui est dynamisée? Ça là, dynamisée, ça veut dire quoi? Dynamite, oui, c'est ça. Une Église dynamite par le Saint-Esprit. Oui, alors, on voit au moins quatre choses ici dans l'Église, la première Église. Alors, premièrement, non, c'est pas ça. Ça? Non, c'est ça. Je vais commencer avec ça. Unie, qui exprime la générosité de Dieu. Elle est ouverte à tous. Elle est fidèle au témoignage des apôtres. Hein? Est-ce qu'on peut essayer de retenir ça? Et pour ceux qui aiment la théologie, c'est pas tout le monde, mais je vais le dire pareil, il y a un credo, un genre de confession de foi du 4e siècle. Ça fait 1600 ans que ça a été écrit, ça, le credo de Nicée-Constantinople. Ou est-ce que des leaders chrétiens du monde entier avaient écrit « Voici qu'est-ce que les chrétiens devraient croire, l'essentiel sur ce que c'est l'Église. » Et ils ont dit « L'Église est une, sainte, universelle et apostolique. » Une, sainte, universelle, apostolique. Et en fait, ça correspond à peu près à ce qu'on a vu juste dans la description de Luc ici. Unie, généreuse, bon, c'est un aspect de la sainteté de Dieu, ouverte à tous, universelle, et fidèle au témoignage des apôtres, c'est quand même un aspect d'être apostolique, c'est-à-dire fidèle à ce que les apôtres ont établi. Bon, fini pour les théologiens. Là, on s'en vient à la mise en pratique. Je vous propose certaines choses. Alors, pour ce qui est de la générosité, il y a beaucoup de manières, comme j'ai dit, donc ce n'est pas une loi que je dis ici, mais j'aimerais quand même dire que nous avons un fonds d'entraide. Puis ce fonds d'entraide fonctionne un petit peu comme le système des apôtres de distribuer à ceux qui tombent dans le besoin. Nous, dans notre Église, on a un fonds d'entraide pour que celle ou celui qui, à un moment donné de sa vie, passe par une épreuve difficile, peut aller vers Mimi ou le pasteur ou un des anciens et dire « J'ai un besoin » et puis ça sera évalué. Et souvent aussi, c'est la personne ne vient pas parler, c'est plutôt Mimi qui dit « J'ai appris que telle personne vit un problème secret. » Mais vous pouvez le dimanche mettre dans votre enveloppe une partie de ce que vous donnez et dire, mais telle partie de ce que je donne, vous écrivez dessus, c'est pour le fonds d'entraide et ça aide l'Église à discrètement aider telle personne dans le besoin ou on fait des choses aussi comme plus habituelles, comme aider un déménagement, aider pour une épicerie. Des fois aussi, c'est pour des contacts de l'Église qui sont rarement ici le dimanche, mais on veut leur montrer l'amour de Christ. Alors, ça peut être une manière que vous pouvez pratiquer la générosité de Dieu, c'est de donner un petit don ou un gros don au fonds d'entraide. Pour exprimer votre unité ou votre engagement à l'unité, eh bien, implique-toi dans un ministère ou dans un groupe maison. Peut-être que tu viens seulement dimanche, et c'est déjà très bien, mais on t'invite à t'impliquer dans quelque chose. Et tout ce qu'on fait à l'Église est ouvert à des nouvelles personnes. Peut-être on va te dire, ben écoute, tu n'es pas encore prête pour telle implication, mais voici comment tu peux te préparer. Alors, à toi de dire, moi, je sens que j'aimerais participer à telle chose. Et ça peut être un groupe maison. Ou ça peut être un des ministères. On en parlera plus une autre fois, mais venez me voir à ce sujet-là. Et proposez-moi quelque chose. Hospitalité. Alors, vous pouvez inviter quelqu'un chez vous, absolument, mais peut-être avant cela, allez vers quelqu'un, appelez une personne ou dites-lui bonjour un dimanche matin et puis prenez contact, essayez de comprendre comment vous pouvez connecter avec cette personne. On a un outil que vous pouvez prendre. Malheureusement, je l'ai pas avec moi ce matin, mais je crois que dimanche prochain, ça va être bon. C'est notre annuaire. C'est comme un petit document où vous avez le nom et la manière de contacter par téléphone ou courriel les personnes dans l'Église. Alors, ceux qui ne veulent pas être dans l'annuaire, ils nous le disent, on ne le met pas. Ceux qui veulent être dans l'annuaire, mais qui disent, ben en fait, mon courriel est confidentiel ou mon numéro de téléphone est confidentiel, bien, on ne le met pas. Mais ce qui est permis, bien, on le met. Puis moi, je vous avais peut-être remarqué, certains d'entre vous, je l'utilise beaucoup, l'annuaire, parce que j'aime, moi, appeler les gens. Et puis, c'est une manière de connecter. Pour terminer, je vais quand même vous obliger ou vous imposer une activité, c'est que maintenant, on va se saluer les uns les autres. C'est une autre manière de montrer l'hospitalité. On va terminer juste en se levant puis en saluant notre voisin, notre voisine, et peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas.